Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir chers auditrices et chers auditeurs des quatre coins du monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous commençons notre programme avec le journal suivi de commentaires et l'histoire d'aujourd'hui.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. Le deuxième forum économique islamique mondial donne des avantages à l'Indonésie. L'Indonésie a lancé le plan directeur du système des finances islamiques. Le président Joko Widodo a organisé un dîner de gala à WIEF. Le forum économique islamique mondial explore le potentiel des PME. Les ministres de la Défense des trois pays ont discuté de l'assurance de sécurité maritime. Erlangga Hartanto renforce la coopération industrielle entre l'Indonésie et la Suisse. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. Le deuxième forum économique islamique mondial a été commencé le mardi 12 août 2016 et le ministre des Finances, Mme Sri Mulyani Indrawati, lors d'une conférence de presse à la Convention Center Jakarta, a déclaré mardi que ce forum donnait des avantages à l'Indonésie, à la fois pour les investisseurs, les parties prenantes et le gouvernement, et devient un moyen de démontrer le potentiel d'affaires et l'investissement en Indonésie.
For Indonesia, World Islamic Economic Forum will serve the benefit for this country. Because we are the fourth largest population and the largest economy in the world.
Indonesia. Pour l'Indonésie, le Forum économique islamique mondial servira l'intérêt pour ce pays parce que nous avions la quatrième plus grande population et l'un des plus grands économies dans le monde. L'Indonésie est un pays idéal pour la destination d'investissement. Le deuxième Forum économique islamique mondial sera le forum pour l'augmentation des investisseurs dans ce pays. Et augmenter le produit qui est fondé sur les valeurs islamiques. Ce forum est important pour l'Indonésie pour montrer leur potentiel et à trouver des partenaires d'affaires. Selon la ministre Sri Mulyani, le potentiel est en promo dans ce forum et l'économie fondée sur la charia et hijab indonésien. La ministre espère pour les deux prochains jours, le forum pourra être une bonne occasion pour les dirigeants, sociétés et leaders, et aussi des universitaires et des professionnels du pays au réseau et développer des affaires. Le ministre indonésien de la Planification du Développement National, en tant également le chef de l'Agence nationale de planification du développement national, ou BAPENAS, M. Bambang Brojonegoro a lancé le plan directeur du système financier islamique en marge de la mise en œuvre du deuxième forum économique islamique mondial mardi à Jakarta. Dans son forum, le ministre Bambang a déclaré que le plan directeur recommandait l'expansion des banques constituées d'un plan d'action et d'intervention sur les produits financiers.
It is time that the government of Indonesia, together with financial regulators,
c'est le temps pour le gouvernement indonésien et les régulateurs financiers pour développer le système financier islamique dans une plus large dimension. L'amélioration et l'expansion de la banque, les marchés financiers, les services financiers non bancaires et les fonds sociaux. Le plan directeur se compose d'un plan d'action et d'intervention pour ces services couvrant des aspects importants comme l'adéquation du capital, les ressources humaines, le développement, le gouvernement, la protection des consommateurs, la socialisation et le réseau de sécurité financière. En outre, le ministre Bambang Brojonegoro a déclaré que le plan directeur du système financier islamique recommandait également la création du Comité national des finances islamiques. Selon lui, ce comité a la tâche d'assurer toutes les parties prenantes à mettre en œuvre le programme de l'action du plan directeur efficace. Le Comité national des finances islamiques sera présidé par le président et le vice-président de la République d'Indonésie, donc les membres sont la plupart des ministres du cabinet de travail, le commissaire de l'autorité de services financiers, le gouverneur de la Banque d'Indonésie et le conseil indonésien des ulémas. Le président indonésien Joko Widodo a organisé un dîner de gala pour les délégués du deuxième forum économique islamique mondial à la salle d'exposition Jakarta Convention Center mardi soir. Comme on le sait, le deuxième forum a ouvert mardi matin par le président Joko Widodo et suivi de plusieurs réunions et panneaux de discussion. Lors de la réunion, ils ont discuté de certaines questions internationales, géopolitiques, le revenu mondial et l'égalité, la justice sociale, la société islamique, les finances islamiques et les occasions d'affaires entre les pays islamiques dans tout le monde. Le président Joko Widodo est sûr que cette conférence peut produire quelque chose de bénéfique pour le progrès des pays islamiques. À la fin de son discours, le président espère que les délégations pourraient revenir à l'Indonésie dans un avenir proche de coopérer plus étroitement. Le dîner de gala a été assisté par la première dame Iriana Joko Widodo, le premier ministre malaisien Dato Sri Muhammad Najib bin Tun Abdul Razak et son épouse, le président de la République de Guinée Alpha Condé, la cinquième présidente de la République d'Indonésie Megawati Soekarnoputri, le premier ministre de la République socialiste de Sri Lanka Ranil Sriyan Wickremesinghe et son épouse, et le président de WIAF, Tun Dato' Musa bin Hitam. En plus d'un dîner de gala, il y avait aussi des spectacles des arts, la merveilleuse diversité. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le deuxième forum économique islamique mondial est un moyen pour explorer le potentiel et les perspectives de micro, petites et moyennes entreprises ou UMKM qui n'ont jamais été pensées auparavant des entreprises au monde. Le président du Forum économique islamique mondial, Tun Musa Hitam, à l'ouverture du forum a déclaré mardi que le Forum économique islamique mondial était l'occasion pour tous les participants de plus de 100 pays à bénéficier des perspectives d'affaires dans divers domaines. Ce forum a eu lieu du 2 au 4 août 2016 sur le thème « Décentraliser la croissance, l'autonomisation des activités futures ». Selon Tun Musa Hitam, la communauté internationale doit reconnaître l'existence des PME qui sont l'épine dorsale de l'économie nationale. L'Indonésie a 60 millions de PME qui ont fourni des possibilités d'emploi et contribuent au produit intérieur brut. Le ministre de la Défense de l'Indonésie, la Malaisie et les Philippines se sont réunis à nouveau à Nusa Dua, Bali, pour discuter de l'assurance de sécurité dans la région maritime de la mer de Sulu, bordant avec trois pays. Le ministre indonésien de la Défense, M. Ria Mizar Triakudu, lors de l'ouverture de la réunion à Nusa Dua Convention Center mardi, a déclaré que la coopération convenue à l'avance serait réalisé immédiatement. pour résoudre les défis de la sécurité maritime comme l'enlèvement des équipages. C'est important de mettre en œuvre immédiatement la coopération trilatérale sous la forme des pratiques sur le terrain d'une manière coordonnée. Selon Riemi Zardiakoudou, la mise en œuvre de la patrouille maritime trilatérale sur la base de coopération qui a été signée précédemment est un effort à faire avec l'espoir de résoudre les problèmes de sécurité dans les trois pays, surtout dans les eaux de la mer de Sulu. La patrouille maritime devrait être une étape dans la fourniture de garanties de sécurité maritime contre la menace du terrorisme, la criminalité transnationale, la traite des personnes, les réfugiés et le trafic de stupéfiants. Le ministre de l'Industrie, M. Erlangga Hartanto, vise à renforcer la coopération entre les secteurs industriels de l'Indonésie et la Suisse, qui a montré des progrès significatifs depuis l'établissement des relations diplomatiques des deux pays en 1952. Dans le domaine de l'investissement pour la Suisse, l'Indonésie est le quatrième pays destinataire de l'investissement en Asie. Il a été dit par le ministre de l'Industrie, M. Erlangga Hartanto, dans le communiqué de presse cité par Antara à Jakarta mardi, lors de son discours représentant du gouvernement indonésien dans la célébration de la 725e fête d'indépendance suisse à Jakarta. Selon les données du ministère de l'Industrie, en 2015, la valeur du commerce entre l'Indonésie et la Suisse a atteint 1,7 milliard de dollars américains, a fortement augmenté de 124% par rapport à l'année précédente. À l'avenir, il croit que la coopération économique entre les deux pays se renforce parce que le gouvernement suisse donnera le soutien et l'assistance à l'Indonésie, notamment dans le secteur industriel, tel que le développement de petites et moyennes entreprises, l'industrie agro et la mise en œuvre de l'enseignement professionnel. Par conséquent, l'Indonésie doit étudier sur l'utilisation de la technologie et le développement des ressources humaines pour l'industrie adoptée par la Suisse. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Le Service mondial de la Radio République d'Indonésie organise le quiz international 2016 avec le prix principal passer des vacances en Indonésie. L'Indonésie, un pays enchanteur, le plus grand pays archipelagique dans le monde où vous pouvez trouver beaucoup de choses merveilleuses. Un beau pays avec la diversité naturelle et culturelle qui vit en harmonie avec les gens sympathiques et peut donner une impression inoubliable. Vous rêvez de visiter l'Indonésie? Réalisez vos rêves en participant au quiz international de la Voix de l'Indonésie 2016. Peut-être vous êtes chanceux pour passer des vacances et profiter des charmes de l'Indonésie gratuitement. Répondre aux questions suivantes. 1. Quelle est la capitale de l'Indonésie? 2. Quel est votre programme préféré? 3. Racontez brièvement ce que vous avez à propos de la Voix de l'Indonésie. Envoyez s'il vous plaît vos réponses avec vos données personnelles, le numéro et la date d'expiration de votre passeport à voiquiz2016@gmail.com avant le 1er août 2016. Bienvenue à l'Indonésie.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Bonsoir à tous, merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, nous présentons maintenant le commentaire. Le Japon est l'un des pays en Asie qui détient encore une tradition de patriarcat, bien que dans d'autres pays, il y ait déjà les femmes leaders comme en Inde, en Indonésie, Taïwan, la Thaïlande, le Bangladesh, le Pakistan, la Corée et les Philippines. En Indonésie, le poste de président autrefois est occupé par une femme. C'est Madame Megawati Soekarnoputri qui est devenue le cinquième président de la République d'Indonésie pour la période 2001 jusqu'à 2004. Au Japon, il y a une tradition que la première position est toujours occupée par les hommes, notamment le gouverneur de Tokyo. Le dernier gouverneur de Tokyo, Yoichi Matsuzoe, à la mi-juin, puis a démissionné. Cela a été fait après une semaine secouée par des allégations de l'utilisation des fonds politiques à des fins personnelles du gouverneur. La démission de Matsuzoe devient une roue historique à une femme japonaise, Yuriko Koike, pour devenir le gouverneur. Après avoir remporté les bulletins de vote aux élections locales le dimanche 31 juillet, dans la ville de plus de 13 millions d'habitants, Koike a battu les 20 personnes qui ont participé à l'élection du gouverneur de Tokyo. Bien que Yuriko Koike soit devenue la première femme gouverneure de Tokyo, elle n'est pas une nouvelle dans le gouvernement. Elle est l'ancienne ministre de la Défense et de l'Environnement. Elle a commencé sa carrière politique en tant que membre de la Chambre basse du Japon, où seulement moins de 10% de ses membres sont des femmes. Avant d'entrer en politique, Yuriko Koike a commencé sa carrière comme interprète après avoir été diplômée de l'Université du Caire il y a 40 ans. Sa capacité à parler l'anglais et l'arabe est enrichie par son expérience en tant que journaliste. Dans son discours de victoire, Koike veut ouvrir des avantages politiques ressentis par tous les citoyens de Tokyo, les hommes et les femmes. Il a une lourde tâche, le Japon accueillera les Jeux Olympiques 2020. Le fonds a gonflé à près de 2 trillions de yens ou plus de 200 trillions de rupiahs. Ce chiffre est 6 fois plus grand que la planification initiale. Yuriko va évaluer ce budget. Ses deux prédécesseurs avaient également la même mission, à savoir le succès de l'événement sportif mondial. Mais ils sont trébuchés sur un scandale financier. Le gouverneur Naoki Inoue, qui a réussi à faire Tokyo lors des Jeux Olympiques 2020, a démissionné à la fin 2013 après avoir reçu une gratification des gestionnaires d'hôpitaux. Après cela, Yoichi Matsuzoe, l'ancien ministre de la Santé, avec le soutien du parti au pouvoir, est devenu gouverneur en 2014. Encore une fois, il a dû démissionner en raison d'un scandale financier. On espère la première femme gouverneure de Tokyo peut agir plus de prudence que le prédécesseur pour que Tokyo puisse accueillir le grand événement en 2020 et montrer le visage japonais au XXIe siècle. La question est-ce que Yuriko peut passer tous les obstacles et être un bon leader à Tokyo? Le succès de Koike fera les femmes japonaises se déplacer plus facilement sur la scène politique nationale. Chers amis, c'était le commentaire de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Cinquième longtemps, bonsoir. Voici donc l'histoire d'aujourd'hui qui s'agit d'événements importants. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec Tunku Abdul Rahman, premier dirigeant qui amène la Malaisie dans un état indépendant. Le 3 août 1957, Tunku Abdul Rahman a été élu pour diriger la Malaisie pendant 5 ans. Il est également connu comme le premier chef de l'État pour amener la Malaisie dans un état indépendant. La désignation de Rahman est grâce à l'élection des sultans dans tout le royaume de la Malaisie à Kuala Lumpur. il était préparé pour représenter la Malaisie d'accepter le transfert de la souveraineté du gouvernement colonial britannique le 31 août 1957. Cette date est choisie comme jour de l'indépendance. En 1970, Rahman a décidé de se retirer de la scène du pouvoir où, un an après avoir imposé un état d'urgence à la suite des grandes émeutes ethniques de la Malaisie qui a tué environ 2000 personnes. La transformation est sur le premier sous-marin nucléaire des États-Unis passe le pôle Nord le 3 août 1958. Le premier sous-marin à propulsion nucléaire nommé Nautilus navigue sous la glace de l'Arctique et passe sous le pôle Nord. Il réalise ainsi la première liaison sous-marine entre l'océan Pacifique et l'océan Atlantique. Le Nautilus est un sous-marin révolutionnaire. Lancé par les Américains en 1954, il mesure 97 mètres de long et pèse plus de 3180 tonnes et est capable de franchir la distance de 60 000 milles à la vitesse de 20 nœuds sans remonter à la surface. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'ONU condamne la purification ethnique en Bosnie le 3 août 1992. Le Conseil de sécurité de l'ONU dénonce l'installation de camps par les Serbes pour les prisonniers croates et musulmans. Quelques jours plus tôt, la presse américaine avait fait état de camps de la mort en Bosnie-Herzégovine et la Croix-Rouge s'était vue interdire l'accès à ces sites. La guerre civile a éclaté entre les Serbes, les Croates et les musulmans après que la Bosnie-Herzégovine a proclamé son indépendance. Après l'intervention des casques bleus, le cessez-le-feu est proclamé en octobre 1995, le conflit ayant fait près de 300 000 victimes. C'est Ritard, c'est l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, avant d'écouter le rappel des titres de l'actualité, nous vous présentons d'abord la mise au point sur l'environnement.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Chers auditeurs, c'est le temps maintenant pour nous de vous présenter la mise au point sur l'environnement. Et pour le titre, la pêche à l'explosif est beaucoup utilisée en Indonésie. Le gouvernement indonésien a le projet de donner les bateaux dans les régions de pêcheurs étant sujettes à l'utilisation de la pêche à l'explosif. C'est ce qu'a affirmé la ministre de la Mer et de la Pêche, Susi Pujastuti, dans une conférence de presse à Jakarta lundi. La ministre Susi a affirmé que l'utilisation de la pêche à l'explosif pour attraper des poissons en Indonésie est encore endémique, en particulier dans l'est de l'Indonésie. Le cas de la pêche à l'explosif s'est révélé, entre autres, de l'arrestation du bateau transportant 57 tonnes de pêche à l'explosif par les agents des douanes. Il y a aussi l'arrestation du bateau transportant 2 tonnes de pêche à l'explosif et 1 tonne de poudre de matière de la pêche à l'explosif dans la région de Pangkajene et aux îles de Pangkep par la police maritime. La pêche à l'explosif était en contrebande de la Malaisie. La ministre a également révélé d'autres cas de la pêche à l'explosif dans les eaux du sud de Solor, l'est de Flores, Nusa Tenggara Est, les eaux de l'île Galassa Bangka Central, la province de Bangka Belitung, et les eaux du sud de l'île Kadingareng dans la province de Sulawesi du Sud. La ministre Susi a dit qu'il y a une possibilité d'utiliser la pêche à l'explosif pour autres besoins hors de la pêche. Elle a admis que l'utilisation de pêche à l'explosif ne peut pas être séparée de l'absence de contrôle par les superviseurs de patrouille du ministère de la Mer et de la Pêche. En outre, certains pêcheurs sont déjà habitués à utiliser la pêche à l'explosif en raison d'être forcés par la présence des pousses saines de grande taille qui s'opèrent dans le territoire de pêche des petits pêcheurs. L'assistance des bateaux et des équipements de pêche du gouvernement vise à remplacer leurs équipements de pêche et à protéger l'environnement. Pendant ce temps, le ministère de la Mer et de la Pêche arrangera le zonage de la pêche. Les pousses saines de grand taille ne sont pas autorisées à capturer dans les eaux de moins de 12 000 qui est la zone de pêche des pêcheurs. Outre l'utilisation de pêche à l'explosif, la pêche illégale continue. Pendant le mois de juillet 2016, le gouvernement indonésien a arrêté 29 navires de pêche illégale à partir d'un certain nombre de pays. Le gouvernement indonésien a le projet de noyer les 71 bateaux de pêche illégaux au 71e anniversaire de l'indépendance indonésienne le 17 août 2016. 71 bateaux sont les bateaux illégaux qui sont arrêtés à partir des résultats d'opérations. La noyade des bateaux aura lieu à 8 endroits, entre autres à Tarakan, Tarempa, Ranai, Batam et Morotai. Serge Tar, c'était la mise au point sur l'environnement de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Le deuxième forum économique islamique mondial a été commencé le mardi 12 août 2016 et le ministre des Finances, Madame Sri Mulyani Indrawati, lors d'une conférence de presse à la Convention Center Jakarta, a déclaré mardi que ce forum donnait des avantages à l'Indonésie, à la fois pour les investisseurs, les parties prenantes et le gouvernement, et devient un moyen de démontrer le potentiel d'affaires et l'investissement en Indonésie.
For Indonesia, World Islamic Economic Forum will serve the benefit for this country because we are the fourth largest population and the largest economy in the world.
Indonesia. Pour l'Indonésie, le Forum économique islamique mondial servira l'intérêt pour ce pays parce que nous avions la quatrième plus grande population et l'un des plus grandes économies dans le monde. L'Indonésie est un pays idéal pour la destination d'investissement. Le deuxième Forum économique islamique mondial sera le forum pour l'augmentation des investisseurs dans ce pays et augmenter le produit qui est fondé sur les valeurs islamiques. Ce forum est important pour l'Indonésie pour montrer leur potentiel et à trouver des partenaires d'affaires. Selon la ministre Sri Mulyani, le potentiel est en promo dans ce forum et l'économie fondée sur la charia et hijab indonésien. La ministre espère pour les deux prochains jours, le forum pourra être une bonne occasion pour les dirigeants, sociétés et leaders, et aussi des universitaires et des professionnels du pays au réseau et développer des affaires. Le ministre indonésien de la Planification du Développement National, en tant également le chef de l'Agence nationale de planification du développement national, ou BAPENAS, M. Bambang Brojonegoro a lancé le plan directeur du système financier islamique en marge de la mise en œuvre du deuxième forum économique islamique mondial mardi à Jakarta. Dans son forum, le ministre Bambang a déclaré que le plan directeur recommandait l'expansion des banques constituées d'un plan d'action et d'intervention sur les produits financiers.
It is time that the government of Indonesia, together with financial regulators, embark on expanding.
C'est le temps pour le gouvernement indonésien et les régulateurs financiers pour développer le système financier islamique dans une plus large dimension. L'amélioration et l'expansion de la banque, les marchés financiers, les services financiers non bancaires et les fonds sociaux. Le plan directeur se compose d'un plan d'action et d'intervention pour ces services couvrant des aspects importants comme l'adéquation du capital, les ressources humaines, le développement, le gouvernement, la protection des consommateurs, la socialisation et le réseau de sécurité financière. En outre, le ministre Bambang Brojonegoro a déclaré que le plan directeur du système financier islamique recommandait également la création du Comité national des finances islamiques. Selon lui, ce comité a la tâche d'assurer toutes les parties prenantes à mettre en œuvre le programme de l'action du plan directeur efficace. Le Comité national des finances islamiques sera présidé par le président et le vice-président de la République d'Indonésie. Donc, les membres sont la plupart des ministres du cabinet de travail, le commissaire de l'autorité de services financiers, le gouverneur de la Banque d'Indonésie et le conseil indonésien des oulémas. Le président indonésien Joko Widodo a organisé un dîner de gala pour les délégués du 2e Forum économique islamique mondial à la salle d'exposition Jakarta Convention Center mardi soir. Comme on le sait, le 2e forum a ouvert mardi matin par le président Joko Widodo et suivi de plusieurs réunions et panneaux de discussion. Lors de la réunion, ils ont discuté de certaines questions internationales, géopolitiques, le revenu mondial et l'égalité, la justice sociale, la société islamique, les finances islamiques et les occasions d'affaires entre les pays islamiques dans tout le monde. Le président Joko Widodo est sûr que cette conférence peut produire quelque chose de bénéfique pour le progrès des pays islamiques. À la fin de son discours, le président espère que les délégations pourraient revenir à l'Indonésie dans un avenir proche de coopérer plus étroitement. Le dîner de gala a été assisté par la première dame Iriana Joko Widodo, le premier ministre malaisien Dato' Sri Mohamed Najib bin Tun Abdul Razak et son épouse, le président de la République de Guinée Alpha Condé, la cinquième présidente de la République d'Indonésie, Megawati Soekarnoputri, le premier ministre de la République socialiste de Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, et son épouse, et le président de WIAF, Tun Dato' Musa bin Hitam. En plus d'un dîner de gala, il y avait aussi des spectacles des arts, la merveilleuse diversité. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le 2e Forum économique islamique mondial est un moyen pour explorer le potentiel et les perspectives de micro, petites et moyennes entreprises ou UMKM qui n'ont jamais été pensées auparavant des entreprises au monde. Le président du Forum économique islamique mondial, Tun Musa Hitam, à l'ouverture du forum, a déclaré mardi que le Forum économique islamique mondial était l'occasion pour tous les participants de plus de 100 pays à bénéficier des perspectives d'affaires dans divers domaines. Ce forum a eu lieu du 2 au 4 août 2016 sur le thème « Décentraliser la croissance, l'autonomisation des activités futures ». Selon Tun Musa Hitam, la communauté internationale doit reconnaître l'existence des PME qui sont l'épine dorsale de l'économie nationale. L'Indonésie a 60 millions de PME qui ont fourni des possibilités d'emploi et contribuent au produit intérieur brut. Le ministre de la Défense de l'Indonésie, la Malaisie et les Philippines se sont réunis à nouveau à Nusa Dua, Bali, pour discuter de l'assurance de sécurité dans la région maritime de la mer de Sulu, bordant avec trois pays. Le ministre indonésien de la Défense, M. Riamizar Riakudu, lors de l'ouverture de la réunion à Nusa Dua Convention Center mardi, a déclaré que la coopération convenue à l'avance serait réalisée immédiatement pour résoudre les défis de la sécurité maritime comme l'enlèvement des équipages. C'est important de mettre en œuvre immédiatement la coopération trilatérale sous la forme des pratiques sur le terrain d'une manière coordonnée. Selon Riamizar Riakudu, la mise en œuvre de la patrouille maritime trilatérale sur la base de coopération qui a été signée précédemment est un effort à faire avec l'espoir de résoudre les problèmes de sécurité dans les trois pays, surtout dans les eaux de la mer de Sulu. La patrouille maritime devrait être une étape dans la fourniture de garanties de sécurité maritime contre la menace de terrorisme, la criminalité transnationale, la traite des personnes, les réfugiés et le trafic des stupéfiants. Le ministre de l'Industrie, M. Erlangga Hartanto, vise à renforcer la coopération entre les secteurs industriels de l'Indonésie et la Suisse, qui a montré des progrès significatifs depuis l'établissement des relations diplomatiques des deux pays en 1952. Dans le domaine de l'investissement pour la Suisse, l'Indonésie est le quatrième pays destinataire de l'investissement en Asie. Il a été dit par le ministre de l'Industrie, M. Erlangga Hartanto, dans le communiqué de presse cité par Antara à Jakarta mardi, lors de son discours représentant du gouvernement indonésien dans la célébration de la 725e fête d'indépendance suisse à Jakarta. Selon les données du ministère de l'Industrie, en 2015, la valeur de commerce entre l'Indonésie et la Suisse a atteint 1,7 milliard de dollars américains, a fortement augmenté de 124% par rapport à l'année précédente. À l'avenir, il croit que la coopération économique entre les deux pays se renforce parce que le gouvernement suisse donnera le soutien et l'assistance à l'Indonésie, notamment dans le secteur industriel, tel que le développement de petites et moyennes entreprises, l'industrie agro et la mise en œuvre de l'enseignement professionnel. Par conséquent, l'Indonésie doit étudier sur l'utilisation de la technologie et le développement des ressources humaines pour l'industrie adoptée par la Suisse. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Le Service mondial de la Radio République d'Indonésie organise le quiz international 2016 avec le prix principal passer des vacances en Indonésie. L'Indonésie, un pays enchanteur, le plus grand pays archipelagique dans le monde où vous pouvez trouver beaucoup de choses merveilleuses. Un beau pays avec la diversité naturelle et culturelle qui vit en harmonie avec les gens sympathiques et peut donner une impression inoubliable. Vous rêvez de visiter l'Indonésie? Réalisez vos rêves en participant au quiz international de la Voix d'Indonésie 2016. Peut-être vous êtes chanceux pour passer des vacances et profiter des charmes de l'Indonésie gratuitement. Répondre aux questions suivantes. 1. Quelle est la capitale de l'Indonésie? 2. Quel est votre programme préféré? 3. Racontez brièvement ce que vous avez à propos de la Voix de l'Indonésie. Envoyez s'il vous plaît vos réponses avec vos données personnelles, le numéro et la date d'expiration de votre passeport à voequiz2016@gmail.com avant le 1er août 2016. Bienvenue à l'Indonésie.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditrices et chers auditeurs, un grand merci de votre fidélité d'écouter la Voix de l'Indonésie. Pour la rubrique suivante, voici le magazine culturel. Nous poursuivons avec Apprendre l'Indonésien.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Bonsoir, chers auditeurs. C'est un plaisir de vous rencontrer à nouveau dans le magazine culturel, un programme quotidien sur le tourisme, l'alimentation ainsi que les arts et la culture de diverses régions d'Indonésie. Dans l'édition d'aujourd'hui, je vais vous inviter à visiter Java East. Chers auditeurs, Malang a belles plages comme les plages à Bali.
la plage qui devient un sujet de discussion est la plage Tigawarna. Elle est située dans le village de Sendambiru, sous-communauté de Sitiarjo, le sud de Malang. La plage de Tigawarna est en cause dans la zone de la conservation de mangrove de Chulungu. Chers auditeurs, avant de venir à la plage Tigawarna, le visiteur doit connecter la gestion de la plage pour commander le billet d'entrée, car le nombre maximal dans un groupe est à seulement 10 personnes qui peuvent entrer dans la zone de la plage. Le nombre de visiteurs à visiter la plage Tigawarna est seulement 100 personnes par jour. Cela est fait tenu parce qu'il est une zone de conservation. Pour commander le billet d'entrée est fait au minimum 2 semaines avant l'heure de la visite. Chers auditeurs, pour visiter la plage Tigawarna, vous devez être accompagné par un guide local en tant que l'agent de conservation. Mais si vous voulez seulement visiter les plages de Chulungup et de Gatra, qui sont situées non loin de la plage de Tigawarna, vous ne devez pas utiliser le service de guide. Dans chaque visite à la plage Tigawarna, vous avez seulement 2 heures pour profiter et jouer à la plage. Après cela, vous devez quitter la plage. Le guide va vous rappeler de ne pas prendre pour longtemps. Il est très strict, mais tout cela est pour l'écosystème à la plage de Tigawarna. La plage Tigawarna a le panorama sous-marin impressionnant, à savoir les magnifiques récifs coralliens et des petits poissons. Si vous aimez la plongée en apnée, cet endroit est un paradis. Mais vous devez savoir, avant de vous plonger, vous devez utiliser un gilet de sauvetage. L'objectif est pour que nous flottons dans l'eau et ne pas toucher le récif corallien. La plage Tigawarna est différente des autres plages car il y a beaucoup d'interdictions qui doivent être obéies afin de maintenir l'écosystème dans cette plage. L'une d'elles est de ne pas faire du camping à la plage Tigawarna, car il y a un endroit spécial pour le camping, à savoir la plage Gatra. En outre, vous devez ramener vos propres collations, y compris les petits ordures sous la forme des emballages de collations, parce que tous les denrées seront enregistrées en détail par l'agent. Donc, il est préférable pour vous d'apporter le sac en plastique pour mettre vos ordures. Si vous ne respectez pas la règle, vous recevrez la conséquence. Habituellement, on vous demande de revenir à la plage pour prendre vos propres ordures ou une amende de 10 000 roupias par poubelle. Chers auditrices et chers auditeurs, c'était le magazine culturel pour ce soir avec le titre « La plage Tigawarna, la résidence de Malang en province de Java-Est ». Demain, nous nous retrouverons avec un nouveau sujet plus intéressant encore. À bientôt!
Et parler l'indonésien, vous pouvez écouter notre programme Aller apprendre l'indonésien.
Chers amis, bonsoir. Nous continuons notre émission avec la rubrique Apprendre l'indonésien, un programme qui introduit le vocabulaire de la langue indonésienne qui vous guide de parler indonésien. Le sujet d'aujourd'hui est « Kamu senang koleksi apa ?» Je répète « Kamu senang koleksi apa ?» En français, « Vous aimez collecter quoi ?» Et ensuite, je vais donner un exemple de conversation et comme d'habitude, je vais prononcer lentement phrase par phrase, 2 fois. Vous pouvez répéter après moi. Cette conversation est entre Mary A et Nofi B au bureau. A. Nofi, saya lihat kamu sering membeli kalung. Nofi, saya lihat kamu sering membeli kalung. En français, Nofi, je vois que vous achetez souvent des colliers. B. Ya, karena saya suka mengoleksi kalung. Ya, karena saya suka mengoleksi kalung. En français, oui, j'aime collecter des colliers. Kamu suka mengoleksi apa? Kamu suka mengoleksi apa? En français, vous aimez collecter quoi? A. Saya mengoleksi banyak benda. Saya mengoleksi banyak benda. En français, je collecte des diverses choses. Misalnya, perangko, kartu pos, gantungan kunci, dan topi. Misalnya, perangko, kartu pos, gantungan kunci, dan topi. En français, par exemple, les timbres, les cartes postales, les porte-clés, et les chapeaux. Selain kalung, kamu suka mengoleksi apa? Selain kalung, kamu suka mengoleksi apa? En français, outre des colliers, vous aimez collecter quoi? B. Saya juga mengoleksi tas, sepatu, dan juga jam tangan. Saya suka mengoleksi tas, sepatu, dan juga jam tangan. En français, je collecte aussi les sacs, les chaussures et aussi montre à bracelet. A. Koleksi kamu pasti barang-barang mahal. Koleksi kamu pasti barang-barang mahal. En français, vos collections sont sûrement des articles coûteux. B. Tidak harus mahal. Tidak harus mahal. En français, ne doit pas être coûteux. Jika saya suka, saya beli, biarpun harganya murah. Jika saya suka, saya beli, walaupun harganya murah. En français, si j'aime, j'achète, même c'est bon marché. Kalau kamu, en français, et vous, A, saya sering ke kantor pos untuk membeli perangko dan kartu pos. Saya sering ke kantor pos untuk membeli perangko dan kartu pos. En français, je suis souvent allé au bureau de poste pour acheter des timbres et des cartes postales. Sering juga teman-teman dari luar negeri mengirim perangko dan kartu pos negara mereka. Sering juga teman-teman dari luar negeri mengirim perangko dan kartu pos negara mereka. En français, souvent aussi des amis à l'étranger envoient des timbres, des cartes postales de leur pays. B. Baiklah, nanti kalau saya ke luar negeri, saya akan bawakan oleh-oleh untuk kamu, perangko, dan kartu pos. Baiklah, nanti kalau saya ke luar negeri, saya akan bawakan oleh-oleh untuk kamu, perangko, dan kartu pos. En français, très bien. Plus tard, quand je suis allé à l'étranger, je vais vous prendre les timbres et les cartes postales comme souvenir. A. Terima kasih. En français, merci. chers amis, c'était notre programme Apprendre l'Indonésien de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Merci à tous et à bientôt.
Chers auditeurs, avant de terminer notre programme, voici le magazine musical.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers auditeurs de la Voix de l'Indonésie dans le monde entier. Merci d'écouter la Voix de l'Indonésie. Voici le programme musical qui présente les musiques indonésiennes, soit traditionnelles et modernes. Vous pouvez écouter nos émissions sur les fréquences de 9525 kHz ou en streaming de www.voi.co.id. En outre, vous pouvez également écouter nos émissions par l'application sur RRI Play. Pour cette édition, je vous présente un groupe musical Angkasa. Bon, chers auditeurs, voici sa première chanson intitulée « Jangan pernah selingkuh ». Bonne écoute. Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson intitulée « Jangan pernah selingkuh » qui est l'une des 10 chansons du premier album de la bande Angkasa et est devenue également le titre de l'album lancé en 2008. Ce groupe musical provenant de Java West, fondé le 23 novembre 2004. Les personnels de ce groupe musical sont Ato comme chanteur, Angie batteur, Teguh guitariste, Ovik bassiste et Denny Ling claviériste. La chanson intitulée « Jangan pernah selingkuh » raconte l'espoir de quelqu'un pour sa petite amie à être fidèle et ne partage pas son amour à des autres. Bon, Serge Tok, attend maintenant la chanson suivante du groupe musical Angkasa intitulée « Promesse ». Bonne écoute. Chers auditeurs et chers auditeurs, c'était notre programme pour ce soir. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4 et 5, Jakarta, ou PO Box 1000. 157 Jakarta, 2011, Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.